Voilà. Maintenant, je vous demande de tourner avec moi un livre de. Le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel. Chapitre 17. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Je pense que vous avez déjà deviné de ce que nous allons voir ce matin. L'histoire de David et Goliath. Dès qu'on dit que c'est l'histoire de David et Goliath, on peut penser que c'est l'histoire pour les enfants. Oui, c'est toute la Bible est l'histoire pour les enfants de Dieu. Et donc, c'est bon pour nous tous. C'est un passage qui est très intéressant et extraordinaire parmi l'histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Au moins une fois, nous avons lu, nous avons entendu une prédication sur cette histoire qui parle de David, un berger qui était victorieux sur un géant qui s'appelait Goliath. Dans le chapitre 8 de ce livre, nous voyons que le peuple d'Israël demande un roi. Mais auparavant, il n'y avait pas de roi, il n'y avait que de juges en Israël. C'était selon la pensée de Dieu. Mais le peuple, il demande un roi dans le chapitre 8. Et nous voyons que le peuple d'Israël demande un roi et Saül est choisi comme roi pour régner sur le peuple d'Israël. Il était un vaillant guerrier, choisi par Dieu même pour sauver son peuple de leurs ennemis. Tournez avec moi au chapitre 14 de 1 Samuel. On va lire le verset 47-48. Chapitre 14 de 1 Samuel, le verset 47-48. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Soba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Donc, tel était le cas de le roi Saül. Il était vainqueur partout où il se tournait. Saül avait été un roi vainqueur jusqu'à le chapitre 14, malgré ses erreurs commises devant Dieu. Il a commis les erreurs, mais malgré tout ça, Saül, il était vainqueur. Mais à chapitre 15, nous voyons le rejet de roi Saül à cause de sa désobéissance concernant les enfants d'Amalek. Chapitre 15 de 1 Samuel, nous allons lire le verset 22. À 23 et 26, 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans le holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les teraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Le verset 26 de la même chapitre. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi quand tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Ça, c'est l'histoire tragique de roi Saül. Et ce n'est pas fini. Le chapitre 17 est une parenthèse dans le récit de l'histoire du roi Saül. Nous voyons ici qu'un nouveau type de l'ennemi apparaît sur la scène. Il s'appelle Goliath, le géant de Philistin. Le verset 4 de chapitre 17. Qui dit, un homme sortit alors du camp de Philistins et s'avança entre les deux armées. Et son nom est Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. un nouveau type de combat se présente au roi Saül et il n'est pas prêt. Comme une armée traditionnelle ne peut pas être prêt pour une guerre de guérilla dans les villes. Nous avons vu dans les années précédentes que le combat de l'armée traditionnelle, ça ne marche pas avec le terrorisme, de montée du terrorisme. Il y a un nouveau type de combat à faire. Donc, l'entraînement traditionnel, ça n'aide pas autant. Le roi Saül n'est pas prêt pour ce nouveau type de combat parce qu'il n'est pas entretenu sa relation avec Dieu. Si vous allez lire les trois premiers précédents chapitres, on voit que Saül, il n'est pas entretenu sa relation avec Dieu. La vie chrétienne est un combat et nous pouvons la vaincre uniquement par notre dépendance entière sur Dieu et certainement pas par nos propres moyens. Et parfois, souvent nous chantons Sainte Cohorte et Combat pour Dieu, la guerre sainte. Mais je demande combien nous comprenons par toutes ces choses quand nous parlons d'un combat saint, une guerre sainte, un combat de chrétiens. Il y a quelques années, nous avons ensemble lu ce livre de Voyage de Pèlerin qui parle de ce combat d'un chrétien. Et la vie chrétienne est un combat et nous ne pouvons pas vaincre uniquement par notre dépendance sur Dieu. Et pas par nos propres moyens. Nous allons premièrement voir la nature du combat. Nous pouvons s'imaginer dans quelle façon une guerre peut se dérouler entre deux vieux ennemis. Nous allons lire les premiers trois versets de chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, les premiers trois versets. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphèse-Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébrinthe. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Donc on voit ici qu'il y a deux armées, un sur une montagne, l'autre sur une autre montagne. Il y a une vallée qui séparait les deux armées. Le combat est normalement entre deux armées, deux peuples, mais ici nous voyons un différent défi. Un homme géant de taille impressionnante se lève dans le rang de l'armée philistine qui s'appelle Goliath. Nous allons voir ensemble encore à partir de verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées et se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Dans notre combat spirituel, l'ennemi est Satan. Mais son tactique, ses ruses sont chaque fois différentes pour nous surprendre. Et dans la guerre, on dit quelque chose, il faut connaître son ennemi. Il faut connaître son ennemi. Donc, Satan... Il emploie les différentes tactiques. Et chaque fois, ces tactiques sont différentes pour nous surprendre. Parfois, il pouvait être déguisé comme un loup et quelques autres fois comme un loup dans la peau d'un agneau. Parfois, nous allons trouver notre adversaire, le diable, rôder comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. Regardons ensemble en 2 Samuel 17, 8 à 10, le verset 8 à 10, le Philistin s'arrêta et adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Est-ce qu'on arrive à voir l'image d'un lion rugissant décrit par l'apôtre Pierre dans son épître de 1 Pierre 2:5? Le diable, l'ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Le combat est une guerre audiovisuelle. Ce combat qu'on trouve ici dans le premier livre de Samuel, c'est un combat audiovisuel. Goliath prend le pouvoir sur la pensée des hommes d'Israël et les prive de toute capacité de faire appel de Dieu. En criant le matin et le soir, Goliath il prive de toute capacité de faire appel à Dieu. Ils sont tellement tétanisés, terrifiés par l'appel de cet homme, et tout l'Israël est gelé par cet défi. Oui, chaque fois que nous regardons la parole de Dieu, nous devrions trouver l'application pour notre vie pratique. La parole est toujours l'actualité. Chaque fois que nous la lisons, elle nous parle. C'est à nous de comprendre avec sincérité pour nettoyer nos pensées et notre cœur. Si nous allons regarder un peu la stratégie de l'ennemi, il a une apparence terrifiante. Regardez le verset 4. Un homme sortit alors du camp de Philistins et s'avança entre les deux armées. Se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. 6 coudées et un empan, c'est près de 3 mètres de haut. Même si nous allons voir une personnalité de 2 mètres, nous sommes étonnés ou nous sommes surpris de voir. Mais 3 mètres, un géant. Donc, il avait une apparence avec toutes ses armures, il avait une apparence terrifiante. Et il avait une armure qui est impressionnante. Le verset 5 à 7, nous avons lu, l'armure tout entière pesait aux environs de 50 kilos. Il portait l'armure de 50 kilos. Il faut comprendre que tout cela est impressionnant quand on sait que le Philistin se réservait le monopole sur les objets au fer forgé. Si nous allons voir dans 1 Samuel 13, 19 à 22, Samuel 13, 19 à 22. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car le Philistin avait dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendit chez le Philistin pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant de bêche, de hoyo, des tridents et de hache étaient émoussés, et pour redresser l'aiguillon, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Donc, tel était l'État du peuple d'Israël, il n'avait pas le monopole sur le fer de forgeron. C'est un peu comme on annonce la guerre, mais notre seul porte-avions, il est en réparation, Charles de Gaulle. Donc, il n'était pas en très bon état. Et troisièmement, la formation était intensive. Goliath était un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 33, de 17-33. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin quand tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, il a eu une formation formidable dans l'art de guerre. Et tout cela consiste de cette stratégie de combat visuel. Et quand je dis audiovisuel, c'est nous sommes impressionnés souvent par les choses que nous voyons, nous regardons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dit Hébreux 11:1. Dans la lumière de la parole, cette stratégie visuelle est une attaque directe sur la foi d'un enfant de Dieu. Quand Satan, il fait des choses, il montre les choses impressionnantes, certes, ça touche la foi d'un enfant de Dieu. Ici, les enfants d'Israël étaient touchés par cette stratégie. Et nous allons voir la stratégie audio. Qu'est-ce que ça veut dire, la stratégie audio? Verset 9, toujours sur dans le chapitre 17, verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Donc ça c'est le challenge, ça c'est le défi qu'il lance. Il semblerait assez raisonnable que seulement deux hommes se battent. Chaque armée présenterait l'homme de son choix. L'issue serait ainsi claire et indiscutable. Ce qui manquait à cet arrangement est qu'il n'y avait personne pour garantir. Si on fait un contrat, qui va porter garant pour ce contrat que chaque côté va respecter? Son exécution selon le contrat. Nous voyons au verset 51, à la fin de ce chapitre, que les Philistins n'ont pas respecté le contrat. Le verset 51. Il courut, s'arrêta près des Philistins, il saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Normalement, il devrait devenir l'esclave pour les enfants d'Israël, ce qu'ils ont dit. Ce que, au moins, Goliath, il a dit. Il prétendait. Mais finalement, non. C'était pas un vrai défi. Et aussi, il y avait le défi audio et aussi une répétition constante. Le géant s'est présenté matin et soir pendant 40 jours pour répéter la même chose. Matin et soir, sans faute, il venait crier de haute voix pour répéter la même chose. Journal télévisé, 24/24, France 24, BFM Télé, e-télé. On a beaucoup de télé aujourd'hui qui nous bombardent avec l'actualité. Souvent, quand vous allez écouter, vous n'allez rien rater. Parce que vous écoutez à midi, vous écoutez à 6 heures, vous écoutez à 10 heures. C'est la même chose qu'ils répètent. Et ça, c'est le lavage de cerveau. Ce que l'ennemi, il veut que les enfants de Dieu, ils l'entendent. Et si nous entendons que le journal télévisé, si nous allons lire uniquement les journaux du monde, je ne parle pas du monde, mais les journaux qui existent, et sinon la radio, des autres moyens. Aujourd'hui, nous avons plus. Nous avons le Facebook, le WhatsApp et beaucoup d'autres, le Twitter, il y a beaucoup d'autres moyens. Et qu'est-ce que nous recevons jour après jour, heure après heure? Et la même chose répétée. On dit c'est l'actualité, mais souvent c'est, ce n'est pas l'actualité. On n'entend pas l'autre côté parler, on n'entend que un côté. Les journalistes le racontent pour ceux qui ont été payés. Sinon, ils perdront leur boulot. Et de matin jusqu'au soir, le monde nous répète les mensonges et à la fin, on finira de croire ce qu'ils nous disent. On dit que si on répète un mensonge 1000 fois, ça deviendra la vérité. Au moins, nous allons croire que c'est la vérité. On vient habitué à ça. Vous voyez le danger d'être collé devant la télévision ou être accroché aux actualités du monde. Et troisièmement, il y avait la moquerie constante. Le verset 8, le Philistin s'arrêta et adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille et leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et ne trouve pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Mais est-ce que c'est vrai ce que le Philistin il dit ici? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Est-ce que c'est vrai? Non. Les enfants d'Israël sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Saül. Ils ne sont pas des serviteurs de Saül. Ils sont des serviteurs de Dieu. Et ils se moquent de le royaume d'Israël, des enfants d'Israël. Goliath ne voulait pas qu'ils se souviennent qu'il était l'armée de l'Éternel. La façon dont il décrit les choses, il veut que les enfants d'Israël, ils oublient qu'ils sont des armées de l'Éternel. C'est l'Éternel, c'est le chef de combat, chef de l'armée d'Israël. C'est lui qui combat. Mais l'ennemi, il veut que les enfants de Dieu, ils oublient qu'ils ne sont pas de l'armée de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, des Romains 10, 17. Voyez-vous maintenant la stratégie audio de l'ennemi contre la foi chrétienne. Notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais l'ennemi, il a positionne une autre stratégie devant un enfant de Dieu, puisqu'il peut être confondre dans sa position. Et après, on voit que la guerre psychologique, ce que nous constatons est que Goliath, par l'impression qu'impose sur la pensée des guerriers d'Israël, il les domine et les paralyse. Et par peur, les enfants d'Israël, ils sont paralysés par peur. Les guerriers d'Israël ne pensent qu'à ce qu'ils voient et entendent. Et où c'est parti leur foi? Matin jusqu'au soir, ils voient qu'une chose, ils entendent que Goliath, ils voient que Goliath, ils voient que l'armée des Philistins, ils oublient Dieu. Ils oublient complètement Dieu. Ils pensent qu'ils sont dominés déjà par les Philistins. Ils pensent qu'ils sont déjà battus par les Philistins. Où est Saül? Vous savez, quand Dieu a choisi Saül, Saül il était plus grand que tous les autres hommes d'Israël. Ah, c'est un vaillant guerrier. Mais où est Saül? Et Saül, il était terrorisé aussi devant Goliath. Et où est Jonathan, son fils, qui avait montré beaucoup de foi en Dieu auparavant? Et même Jonathan s'est rendu inutile dans cette guerre psychologique. Nous n'avons pas là une situation dans laquelle se trouvent beaucoup de chrétiens. Et aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y a beaucoup qui se trouvent dans cette situation. Ils sont terrorisés par le monde, par les choses que le monde ils disent, par les choses que nous entendons. Et nous oublions que Dieu, il est souverain, il est en train de régner. Il est le chef de l'armée de Dieu. Donc nous oublions. Ils ont le sentiment qu'ils doivent relever le défi que le monde leur lance avec les armes du monde que le monde suggère. Ici, Goliath, il vient avec une suggestion. Il dit que voilà, on va changer les règles de combat. Ce sera corps à corps, un homme contre un autre homme. Mais ça, c'est jamais été la règle de guerre. Et donc, le monde, il nous suggère. Il propose quelque chose, après, il nous suggère les armes que le monde, il nous propose. Mais est-ce que nous devrions accepter ces armures que le monde, il nous propose? Sous la pression que Goliath leur imposait, les enfants d'Israël ne pouvaient voir qu'une seule option, celle de répondre de la même manière qu'exigeait le défi. Le monde exige de nous que nous défendons notre foi intellectuellement, par des raisonnements qui leur paraissent convaincants. Quand on parle avec les gens du monde, et ils nous font tomber dans leur logique, de leur raisonnement, de leur philosophie, et on est entraîné par leur raisonnement. Si nous n'y arriverons pas, nous devrions leur être soumis. Goliath était confiant que l'issue lui serait favorable. L'armée d'Israël est sur le point de tomber sous la domination des Philistins. Et beaucoup de chrétiens sont déjà tombés. Et Goliath, il est sûr de vaincre. Il pense que la victoire est déjà gagnée par cette stratégie. Les éléments de la victoire. L'Éternel vient à la rescousse de son peuple qui est sur le point de devenir les esclaves de leur ennemi. Et chaque fois quand l'homme il pense qu'il n'y a plus rien, ça reste plus rien d'espoir, Dieu il intervient. Et quand Élie a pensé qu'il n'y a plus de prophètes en Israël, mais Dieu l'a dit, il y a encore 4000 hommes. Mais ici, Dieu là, il avait son homme à lui pour le défi, pour combattre le géant. Dieu leur envoie un autre homme qui n'a ni l'apparence, ni les armes, ni le comportement d'un guerrier qui puisse vaincre le géant Goliath. David, il n'avait pas certainement 3 mètres. Il était un bel homme, mais il n'était pas. On ne peut pas considérer David comme un égal à David. Il n'avait même pas les armes. Il n'avait même pas le comportement d'un guerrier pour vaincre le géant Goliath. Goliath est même insulté. Et même insulté par l'apparence de celui qu'on lui envoie. Regardez versets 42 et 43 de 1 Samuel 17. 42 et 43. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa et ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, voilà. Donc, ils sont insultés, Goliath, quand David, il est présenté devant lui. Qu'y a-t-il chez David? C'est un homme libre dans sa pensée. David n'avait pas été exposé aux paroles et à la vue de Goliath pendant 40 jours. Et toutes les armées d'Israël, tout le peuple d'Israël était exposé à la parole de Goliath, au défi de Goliath. Mais David, il était libre. Il n'avait pas été exposé à cette influence paralysante. David avait plutôt été exposé à la parole de Dieu et avait passé du temps à la méditer. Car il était un berger, il pesait les brebis de son père, de sa famille, dans le désert. Il passait du temps en méditant la parole de Dieu. Il était sous l'influence d'une autre pensée. Ce n'est pas la pensée du monde. Il avait l'influence d'une autre pensée, la pensée de Dieu, la pensée du Saint-Esprit. Il refuse de porter l'armure de Saül. Quand il vient, il refuse de porter l'armure de Saül. Regardez verset 38-39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Donc, Saül, dès qu'il voit David, il est partant pour faire la guerre avec le géant Goliath. Et Saül, il dit que tu peux prendre mes vêtements, mes armures, pour faire le combat. Et on peut demander pourquoi Saül, s'il avait pensé que ses armures étaient suffisantes pour combattre le géant, pourquoi lui-même il n'est pas allé? Pourquoi il propose à David? Ah, il y a des leçons pour nous. Combien de chrétiens qui n'ont rien fait pour le Seigneur sont bavards pour dire aux autres comment vivre leur foi chrétienne. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Les chrétiens comme Saül, eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais ils disent que, voilà, il faut vivre la vie chrétienne ainsi. Mais ce qu'on ne peut pas porter, on ne peut pas demander les autres de porter. Et la foi de David était entièrement sur Dieu et Dieu seul. David, il avait mis sa foi entièrement en Dieu et Dieu seul. Regardez, psaume 20, verset 7. Psaume 20, verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il y a des gens qui peuvent s'appuyer sur le char et les chevaux, mais son appui, c'était son Dieu. David, il avait mis entièrement sa confiance en Dieu. David a appris l'art de guerre dans l'école de Saint-Esprit quand il pesait ses brebis. Il avait appris s'appuyer sur Dieu. Il ne faisait pas appel à Dieu uniquement pour les urgences. Mais parfois, on peut crier à Dieu dans le cas d'urgence. Mais est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que nous connaissons notre berger? David ne voit pas combattre le géant sur le terrain qu'il suggère, mais sur le terrain de son choix, selon les règles de son choix, au nom de Dieu, que Goliath a insulté. L'ennemi, il propose un terrain. Viens combattre avec moi. Mais les chrétiens, Il ne devrait pas aller dans le terrain de l'ennemi pour combattre avec lui. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà entendu cette anecdote. Hein. Un aigle et un serpent, un aigle a pris un serpent sur terre, et les deux, ils combattent. Bien sûr, le serpent, il avait plus de puissance quand il est sur la terre. Donc l'aigle, il prend le serpent, il commence à voler. Dans l'air, l'aigle, il maîtrise mieux le serpent. Donc, le combat, c'est le même, mais les règles de combat sont différentes. Le terrain de combat sont différents. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Et l'armure de David était complètement différente. Mais nous savons dans l'histoire, mais il était comme un berger, un jeune homme hein, qui marche avec un bâton et avec cinq cailloux. Voilà. Donc, mais son armure était complètement différente. Regardez en Éphésiens 6. À partir de verset 10 jusqu'à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela de boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, ça, c'est l'armure que Dieu nous donne. Et nous avons un combat à faire. S'il y a quelqu'un ici qui peut dire que je n'ai pas le combat dans ma vie chrétienne, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre vie, elle n'est pas dans la bonne voie. Nous avons tous le combat à faire. Nous avons tous le combat à faire. La vie chrétienne, ce n'est pas une promenade. Mais c'est une marche avec Dieu. Et quand vous décidez de marcher avec Dieu, nous aurons le combat. David est un exemple et un encouragement pour les hommes d'Israël qui se lèvent et qui poursuivent leurs ennemis. Regardez les versets 52 sur le chapitre 17 de 1 Samuel. Le verset 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin à Shaaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et c'est David qui descend et monte sur Goliath. Il prend son épée, il coupe la tête de son ennemi. Et après, il commence à poursuivre les Philistins. Et jusqu'à maintenant, l'armée de l'ennemi qui était, l'armée d'Israël qui était terrorisée par l'ennemi, par la parole vaine, ils suivent David. Et est-ce que nous sommes un exemple pour les autres chrétiens dans le combat chrétien. Est-ce que vous êtes une personne qui est sous l'influence de la pensée libératrice de Dieu? Est-ce que où est-ce que vous écoutez le plus? Je pense que fin de la journée, ça sortira. Si nous avons écouté beaucoup la télé, si nous avons vu beaucoup la télé, notre conversation, ce sera autour de la télé. Ce ne sera pas autre chose. Et dans notre conversation, dans notre marche, toutes ces choses, ça sortira. Qui nous écoutons? Dieu ou le monde? Et le triomphe de David sur Goliath est très typique de la triomphe de le fils de David, Jésus-Christ, sur Satan et sur tout le pouvoir de la ténèbre. Regardez Colossiens 2.15. Colossiens 2.15. On peut trouver l'image de ce que David l'a fait. Colossiens 2.15. Il a dépouillé des dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il y a quelques semaines, nous avons, avec les hommes, nous avons vu la vie de David, un homme de Dieu, sa force et ses faiblesses. On a vu beaucoup de faiblesses de David. Mais ici, nous voyons David, un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, qui écoute la voix de Dieu, qui exécute le commandement de Dieu, qui écoute personne d'autre. Et par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons l'exemple en Jésus-Christ qui a dépouillé ses ennemis. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, tout était mis sous nos pieds. Et David, c'est un exemple à suivre. Et nous avons un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Et nous devrions poser la question à nous-mêmes, qui nous écoutons, Dieu ou les hommes? Et qu'est-ce que nous lisons tous les jours? La parole de Dieu ou les journaux? Donc, nous devrions regarder à notre cœur et répondre sincèrement à Dieu. Prions.